Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité. Paul Miki Rwamba.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre à l'écoute de Radio Oméga et bienvenue aux infos de la mi-journée. Au sommaire de cette édition, le gouvernement burkinabé a décidé de suspendre les activités de la caisse des dépôts et consignations jusqu'ici dirigée par l'ancien Premier ministre Paul Kaba Tchéba. La décision a été entérinée hier mercredi par le Conseil des ministres. Et puis le gouvernement condamne sans réserve et sans ambiguïté les propos haineux via les réseaux sociaux. Dans une déclaration faite hier mercredi, le porte-parole du gouvernement promet faire appliquer la rigueur de la loi contre les auteurs de tels propos. Un nouveau vaccin contre le paludisme mis au point par des chercheurs burkinabés. Il s'agit du R21. C'est une version améliorée du RTSS déjà en expérimentation par l'équipe médicale de l'unité de recherche de Nanoro. Et le groupement des acteurs et petits commerçants du Burkina s'insurge contre les propos du PDG du groupe Ebomaf qui promet s'opposer à tout opérateur économique qui voudrait conquérir le pouvoir d'État au Burkina. Ces acteurs du commerce étaient face aux hommes de médias. Explication dans cette édition du journal. Voilà, mesdames, messieurs, pour ce qui est du menu de cette édition. Une fois de plus, merci de votre fidélité. Bon appétit si vous êtes à table et bienvenue à cette édition de la mi-journée. Le Conseil des ministres en sa séance d'hier mercredi 17 août 2022 a décidé de la suspension des activités de la Caisse des dépôts et consignations, jusqu'ici dirigée par l'ancien Premier ministre burkinabé Paul Kaba Tchéba, porté à la tête de l'institution en mars 2019. Bien d'autres dossiers sont passés au peigne fin lors des travaux de ce Conseil des ministres, dont le résumé nous est proposé ici par Charles Da.
Pour éviter un génocide au Burkina Faso, le gouvernement compte agir résolument et fermement contre les auteurs des audios qui circulent sur les réseaux sociaux, incitant ainsi à la haine. Lionel Bilgo, porte-parole du gouvernement.
Force est de constater que la cohésion nationale et notre vivre ensemble sont de plus en plus mises à rude épreuve. Les récents audios qui circulent depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, dans les groupes WhatsApp, en l'occurrence, viennent nous rappeler la nécessité d'agir résolument et fermement avant que l'irréparable ne se produise. Ce sont des propos d'une extrême gravité, qui n'ont d'équivalence que les dérives de Radio Mille Collines qui ont conduit au génocide rwandais, une des pires tragédies de l'humanité, de laquelle nous devons savoir tirer des leçons.
Absence de consensus entre les partenaires financiers et la Caisse des dépôts et consignations, créant ainsi des difficultés de mobilisation des ressources financières, est l'une des raisons qui a conduit le gouvernement de la transition à la suspension des activités de cette institution dirigée par Paul Kaba Tchéba, ancien premier ministre sous le régime de Roch Kabore. Lionel Bilgo.
Parmi les difficultés que rencontre cette caisse, vous avez l'absence donc de consensus entre la Caisse de dépôt et de consignation et les partenaires financiers, notamment la CARFO, la CNSS et la Poste au Burkina Faso, créant ainsi donc des difficultés de mobilisation de ressources financières telles que prévues par la loi, les partenaires financiers ayant marqué un désaccord sur la centralisation de leurs fonds au niveau de la Caisse de dépôt et de consignation du Burkina Faso. Une autre difficulté rencontrée, ce sont les difficultés d'ordre juridique qui mettent donc la Caisse de dépôt et de consignation du Burkina Faso dans une situation de quasi-illégalité, car elle fonctionne sans commission de surveillance conforme à la loi.
Dans la lutte contre le terrorisme, pas question pour l'armée burkinabé de baisser la garde. La stratégie des terroristes à séparer les différentes communes à travers le dynamitage des ponts a été comprise par l'armée qui s'y met pour réparer ses ponts de ralliement, notamment le pont dynamité à 5 km de Diapaga par un groupe armé dans la nuit du 13 au 14 août. Colonel-major Charles Josaphat Zungrana, ministre des Infrastructures et du Désenclavement.
Le Conseil a donc entendu une communication orale relative au sabotage d'ouvrages de franchissement sur des axes routiers dans la région de l'Est par des groupes armés terroristes. Alors il s'agit de deux dalo qui ont fait l'objet de dynamitage donc dans la nuit du samedi à dimanche. Mais de façon plus générale, je voudrais donc rassurer l'ensemble de la population que les gouvernements donc prennent les dispositions pour sécuriser davantage donc les ouvrages donc sur les axes routiers. Parce que comme vous le savez, la stratégie des terroristes aujourd'hui, c'est donc d'isoler certaines localités donc pour y faire régner leur loi, mais tout en empêchant également donc les forces de défense et de sécurité donc d'y accéder. Et donc c'est pourquoi nous travaillons d'arrache-pied actuellement à prendre un certain nombre de dispositions pour permettre que les ouvrages donc soient davantage sécurisés.
Dans la lutte contre la mauvaise gouvernance et la promotion de la transparence dans les affaires publiques, le gouvernement de la transition a pu recenser 685 comptes bancaires ouverts au profit des structures publiques avec un solde de plus de 426 milliards de francs CFA. Sur ces 685 comptes bancaires recensés, il faut noter que 369 ont obtenu une autorisation du ministère en charge des Finances contre 230 qui ont été ouverts illégalement avec un solde de plus de 68 milliards de francs CFA.
Et voilà, c'était donc un compte rendu signé Charles Da. Et puis comme indiqué, le gouvernement a condamné les propos haineux véhiculés dans les audios sur les réseaux sociaux et appelant entre autres au meurtre et à l'épuration ethnique dans le pays. Retour sur l'essentiel de la déclaration du gouvernement avec Lamine Traoré.
Les récents audios qui circulent depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, dans les groupes WhatsApp en l'occurrence, viennent nous rappeler la nécessité d'agir résolument et fermement avant que l'irréparable ne se produise. Peut-on lire dans la déclaration du gouvernement? Le gouvernement qualifie ces propos d'une extrême gravité qui n'ont d'équivalence que les dérives de Radio Mille Collines qui ont conduit, dit-il, au génocide rwandais, une des pires tragédies de l'humanité et de laquelle, explique toujours le gouvernement, nous devons savoir tirer des leçons. Il est question d'appels directs et actifs au meurtre, à des tueries de masse, à l'épuration ethnique et à la sédition. Le ton et les mots utilisés donnent froid au dos et témoignent de la gravité de la situation, indique la déclaration. Pour le gouvernement, il s'agit là bien de discours haineux, subversifs, dangereux et inacceptables dans un pays riche et diversifié comme le Burkina Faso. Ces propos appellent de notre part une condamnation sans réserve et sans ambiguïté, note la déclaration signée par le porte-parole du gouvernement Lionel Bilgo. Le gouvernement assure engager des poursuites judiciaires contre les auteurs de ces propos. Toutes les conséquences de droit vont être tirées de ces propos assumés, assure le gouvernement. Il nous faut déconstruire ces discours haineux qui mettent à mal la cohésion et l'unité nationale, a indiqué la déclaration du gouvernement.
Suite de cette édition du journal, le jeudi 11 août dernier, l'homme d'affaires burkinabé Mahamadou Bonkungu a dit avec conviction que son groupe Eboma Faso poserait à tout opérateur économique qui voudrait conquérir le pouvoir d'État au Burkina, une décision qui n'est pas du goût du groupement des acteurs et petits commerçants du Burkina, le GAPEC, qui estime que cela ne convenait pas aux ambitions de ses membres en tant que petits commerçants et qui veulent devenir opérateurs économiques dans les prochaines années. Ces petits commerçants se sont exprimés face à la presse. Le point complet avec Bruno Bayala.
Le groupement des acteurs et petits commerçants du Burkina se dit frustré par cette sortie du président-directeur du groupe Eboumaf. Selon lui, un opérateur économique aujourd'hui à la présidence du Faso va faciliter la cherté de la vie. Donc pas question de mettre une barrière aux prétentions politiques des opérateurs économiques. Soumaïla Zongo est le coordonnateur du GAPEC.
On a trouvé que ces propos n'étaient pas convenus à notre ambition en tant que petit commerçant. Et en tant que vouloir être opérateur économique demain, comme les patrons qui sont devant, et pourquoi pas avoir cette ambition d'être le président du Faso demain.
Soumaïla Zongo et ses camarades expliquent que si un opérateur économique a le courage de dire qu'il a le pouvoir de barrer le chemin à quelqu'un de briguer la magistrature suprême, c'est qu'il a le pouvoir aussi de gérer le pays. Raison pour laquelle il propose que Mahamadou Bonkungu soit candidat à la présidence prochaine.
Nous avons voulu que le président Eboumaf lui-même se présentait pour que nous, en tant qu'opérateurs, petits opérateurs économiques, puissions le soutenir. Mais à la surprise, nous avons trouvé que non, le groupe Eboumaf veut le barrer chaque opérateur économique qui avait l'ambition de briller la présidence. Ça n'inspire pas à notre ambition et nous avons trouvé que c'est bloquer nos souffrances.
Au regard de la situation socio-économique difficile que connaît le Burkina, ces petits commerçants du Faso se disent convaincus que seul un opérateur économique à la magistrature suprême peut aider les Burkinabés. Ils en veulent pour preuve Patrice Talon du Bénin et Donald Trump des États-Unis d'Amérique.
Léonce Conné, ancien ministre du Commerce et ancien député CDP au moment de l'insurrection populaire de 30-31 octobre 2014, a porté plainte contre Alassane Bala Sakandé et Émile Parigui-Paré pour incendie de l'Assemblée nationale du Burkina Faso. Il a saisi le parquet du tribunal de grande instance de Ouagadougou à cet effet. Les détails dans ce récit de Yaya Diomandé.
L'ancien deuxième vice-président du Congrès pour la démocratie et le progrès, Léonce Conné, a dénoncé le 8 août dernier dans une lettre adressée au procureur du Faso dont Omega Media a obtenu la copie, l'incendie criminel de l'Assemblée nationale du Burkina et des destructions de biens connexes qu'auraient causé Bala Sakandé et Émile Paris. Le jeudi 30 octobre 2014, divers locaux de l'Assemblée nationale du Burkina ont été saccagés, pillés et incendiés dans un mouvement dit insurrectionnel dont M. Alassane Bala Sakandé a, dans une déclaration publique du 22 septembre 2016, attribué la paternité à son parti politique, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, MPP, peut-on lire dans la lettre de Léonce Conné adressée au procureur du Faso. Selon Léonce Conné, député au moment des faits, Émile Paré, ancien secrétaire du Mouvement du Peuple pour le Progrès, a joué aussi un rôle important dans l'incendie criminel des locaux de l'Assemblée nationale et des destructions des biens connexes. L'envahissement, l'occupation, le pillage et l'incendie des locaux de l'Assemblée nationale le 30 octobre 2014 ont été exécutés par des groupes d'insurgés effectivement dirigés par Émile Paré, indique Léonce Conné. Alassane Bala Sakandé et Émile Paré doivent répondre avec leurs complices de cet incendie criminel d'un édifice public, estime Léonce Conné.
Un mot de santé dans la suite de cette édition du journal de la mi-journée. R21, c'est le nom du nouveau vaccin contre le paludisme mis au point par des chercheurs burkinabés de l'unité clinique de Nanoro. C'est une version améliorée du RTSS qui est déjà déployée sur le terrain. Plus efficace que le RTSS, le R21 n'est pas encore administré à grande échelle, mais cela ne devrait plus tarder. C'est du moins ce que nous rapporte Marina Traoré.
77%, c'est le taux d'efficacité du R21. Un taux nettement plus élevé que celui du vaccin RTSS, efficace à 39%. Le R21 devient ainsi le premier vaccin à atteindre l'objectif d'efficacité vaccinale de 75% fixé par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Professeur Alidou Tinto, chef de l'unité clinique de Nanoro.
Nous avons travaillé dans le développement du vaccin RTSS qui est aujourd'hui recommandé par l'OMS pour une utilisation mondiale. Mais vous savez également qu'on a une efficacité assez modeste, de l'ordre de 30% sur 4 ans contre les paludismes graves. C'est une efficacité intéressante mais pas suffisante au regard justement de l'ambition que nous avons d'éliminer le paludisme à l'horizon 2030. C'est pourquoi après RTSS, notre équipe en collaboration avec ses partenaires d'Oxford a entrepris de travailler sur une molécule de deuxième génération qu'on appelle le R21 qui nous a rapporté des résultats en tout cas jamais rapportés sur le plan mondial en matière de recherche sur la vaccinologie du paludisme qui est une efficacité de 77% sur une année.
Les essais se poursuivent. Le candidat vaccin a été testé sur 450 enfants âgés de 5 à 17 mois dans l'aire du système de surveillance démographique et de santé de Nanoro. Selon le professeur Tinto, les résultats de la deuxième et de la troisième phase de l'étude seront bientôt disponibles. L'équipe espère commencer la vaccination à grande échelle en 2023.
Nous continuons le suivi des enfants sur 2 ans. Bientôt, vous aurez les résultats à la fin de ce mois de ce suivi des enfants sur 2 ans, des enfants à qui nous avons administré une dose de rappel. Alors, l'objectif pour nous, c'est d'accélérer l'agenda du développement de ce produit. Et c'est pourquoi nous avons, parallèlement à la phase 2, initié une phase 3, où, en plus du Burkina, nous avons inclus d'autres pays, notamment la Tanzanie, le Mali et le Kenya, et avec pour objectif que nous souhaitons, en tout cas, reproduire ce que nous avons vu en phase 2, ça veut dire une efficacité supérieure à 75%. Alors, nous aurons les premiers résultats également de cette phase 3 bientôt en septembre, donc les 6 premiers mois. Et si nous avons une tendance à aller vers ce qu'on a obtenu en phase 2, et éventuellement ce vaccin pourrait être déjà déployé à l'horizon 2023 chez les 250 000 premiers enfants du Burkina qui seront vaccinés et suivis.
Le paludisme demeure encore la première cause de consultation, d'hospitalisation et de décès dans les centres de santé du Burkina Faso. En 2021, les formations sanitaires du pays ont enregistré plus de 12 millions de cas de paludisme et malheureusement 4355 décès. Ce vaccin apparaît donc comme une lueur d'espoir qui permettra de sauver des vies, non seulement au Burkina, mais aussi dans les pays tropicaux.
16 volontaires nationaux seront bientôt déployés dans 3 communes de la région du centre-nord du Burkina Faso. Cela dans le cadre du projet d'appui à la production agro-pastorale. Ce projet vise à l'amélioration des conditions de vie des personnes déplacées internes et leurs familles hôtes. Leur rôle sera d'assister les producteurs et éleveurs à travers des conseils pratiques d'une durée de 6 mois. Ce programme est rendu possible grâce à l'accompagnement de l'Agence japonaise pour la coopération internationale. La cérémonie marquant le début des activités est intervenue hier mercredi 17 août 2022 à Ouagadougou. Abdulaziz Zoulabou pour le compte-rendu.
Les déplacés internes avoisinent désormais les 2 millions du fait de l'insécurité au Burkina. La région du centre-nord est l'une des régions qui enregistre le plus grand nombre. L'objectif poursuivi à travers ce projet est le renforcement des capacités de 360 producteurs en production fourragère et la mise à la disposition de personnes ciblées de 24 noyaux de petits ruminants reproducteurs. Les communes de Kaya, de Boussouma et de Korsumoro sont les zones d'intervention de ce projet. Bourema Nabaloum est le directeur général du groupement d'intérêt public Programme national de volontariat au Burkina Faso, GIP-PNVB.
Ces volontaires vont être comme des agents techniques aux côtés du ministère, des techniciens du ministère de l'Agriculture, qui eux sont déjà sur le terrain, mais constater que le nombre ne peut pas être suffisant en termes de fonctionnaires sur le terrain. Donc, eux, ils sont encadrés par les services techniques de l'agriculture, qui eux, à leur tour, sont dans les champs avec également les producteurs, pour s'assurer qu'ils pratiquent bien les consignes, pour s'assurer qu'ils vont réussir leur mission.
Les dispositions sont prises pour la réussite de cette activité, à en croire le secrétaire général de l'agriculture, Victor Bounogo.
Et à la direction régionale de l'agriculture qui assure véritablement la mise en œuvre de ce projet à travers la direction provinciale et du niveau de la direction provinciale, il y a les chefs de zone d'appui technique qui vont assurer l'accompagnement des volontaires et le suivi des bénéficiaires sur le terrain.
Le financement de ce projet est assuré par l'Agence japonaise de coopération internationale à travers le budget de la GIP-PNVB.
Un mot de l'actualité au-delà des frontières du Burkina. À présent, au Kenya, Raila Odinga et sa coalition ont promis déposer un recours devant la Cour suprême pour contester l'annonce lundi de la victoire de William Ruto par le président de la commission électorale. Pendant ce temps, William Ruto lui présente les priorités de son futur gouvernement devant les élus de sa coalition. Et puis en Angola, l'incertitude plane toujours sur le sort de la dépouille mortelle de José Eduardo dos Santos, décédé le 8 juillet à Barcelone. 40 jours après son décès, son corps est au centre d'un bras de fer juridique entre sa veuve Ana Paula Cristiano dos Santos et l'une des filles Wesilki Chese dos Santos, âgée de 44 ans. Le tribunal espagnol a décidé que la veuve de l'ex-président angolais pourrait finalement récupérer sa dépouille afin de rapatrier et de l'inhumer au pays. Mais cette décision est déjà contestée et est au cœur d'un conflit familial ouvert.
La revue de presse.
Les autorités burkinabè semblent fatiguées de jouer leur rôle dans la lutte contre le langage haineux et l'intolérance sur les réseaux sociaux. C'est en tout cas ce que pense l'Express du Faso. Sur le plan sécuritaire, le journal Le Quotidien estime que les Burkinabés veulent voir des résultats pour croire au gouvernement. Quant aux tensions entre Paris et Bamako, les parutions du jour s'interrogent sur les réelles intentions des autorités maliennes. La revue de presse de ce jeudi porte la signature de Brigitte Yoda.
La liste des attaques terroristes au Burkina est longue. Au bas du tableau, Le Quotidien cite l'explosion d'une mine à l'université de Waiguya et l'incendie de la salle de reprographie le 16 août dernier. Selon le journal, ces deux faits laissent perplexes les populations de Waiguya car plusieurs communes proches de la ville échappent au contrôle de l'État, pour ne pas dire que l'État a déserté ces localités. Comme Saint-Thomas, les Burkinabés veulent voir pour croire puisque depuis un certain 24 janvier, date du coup d'État du 1 PSR. Sur le terrain, pratiquement rien n'a changé, sur le plan sécuritaire notamment, insiste le quotidien. Et discours haineux sur les réseaux sociaux, le gouvernement invite à une prise de conscience sur les risques, titre Sidoya. Mais à ce sujet, l'Express du Faso pense que les autorités refusent de s'assumer. Alors qu'on s'attendait à ce que la CIL, Commission de l'informatique et des libertés, tape vigoureusement du poing sur la table et assigne les auteurs de tels propos haineux et intolérants, appelant à l'extermination de groupes ethniques devant la justice, elle se borne à un communiqué qui n'apporte rien de neuf dans la lutte contre de telles déclarations, déplore le journal Bobolais, pour qui, si ce n'est pas une fuite de responsabilité, ça y ressemble. Quant aux tensions entre Bamako et Paris, l'observateur Palga se demande jusqu'où les autorités de la transition malienne vont-elles donc aller. 24 heures seulement après que le dernier militaire français a tourné le dos au Mali, réarticulation oblige, écrit aujourd'hui au Faso, les autorités maliennes accusent ouvertement la France de violer leur espace aérien et de soutenir les groupes armés terroristes, en l'occurrence la branche sahélienne du groupe État islamique, poursuit le journal des 1200 logements. Le pays a saisi le 16 août le Conseil de sécurité des Nations Unies. Quelle posture l'ONU va adopter ayant été saisie ? S'interroge aujourd'hui au Faso, qui a l'impression qu'il y a quelque chose derrière, mais quoi ? Au Mali de crever l'abcès, soutient notre confrère. Ces accusations de soutien aux groupes armés terroristes portées contre la France n'ont rien de surprenant, estime pour sa part le pays qui pense que la meilleure manière pour les autorités maliennes de la transition de fâcher davantage Paris, c'est de prouver que la coopération Russie-Mali peut réussir en si peu de temps, là où Barkhane a échoué en près d'une décennie. Une nouvelle escalade entre Bamako et Paris qui fait dire à l'Obs qu'Assimi Goïta souffre de ce qu'on pourrait appeler le syndrome de la persécution et a trouvé en la France un bouc, que disons-nous, un coq émissaire pour expier tous les péchés du Mali. Au prochain épisode donc, conclut l'observateur Palga.
Fin de ce journal sur Radio Omega, un journal mis en onde par Fidel Compaoré. Le relais Facebook a été assuré par Yaya Diomandé, assisté de Fawzia Zongo. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Radio Omega.
Radio Omega, l'info en direct.